Le livre de Job, c'est peut-être un sujet un peu spécial ce soir. Peut-être une prochaine fois, on va continuer avec les diapositives sur les actes. Mais moi, j'avais à cœur de prendre ce sujet ce soir. Et on pourrait dire Christ dans le livre de Job. On a chanté ce soir un très beau cantique, ou en effet deux beaux cantiques. Mais aussi dans le dernier cantique, on a pensé au Seigneur Jésus. Puis lorsqu'on lit la parole de Dieu, il faut toujours chercher la personne du Seigneur. Le Seigneur, on le rencontre sur chaque page de la parole. Et c'est très spécial de voir le Seigneur Jésus dans le livre le plus vieux de la Bible. On pense que c'est le livre le plus vieux, écrit même avant les écrits de Moïse. Donc, on lit simplement quelques passages. Je vais donner d'abord une petite introduction, mais on va lire d'abord quelques versets dans Job 1. Ce n'est pas mon intention donc de parler longtemps de Job lui-même, mais surtout de chercher quelques détails, quelques passages concernant le Seigneur Jésus. Job 1, il y avait dans le pays d'Uth un homme dont le nom était Job. Et cet homme était parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7 000 brebis et 3 000 chameaux et 500 paires de bœufs. Et 500 ânesses. Il avait un très grand nombre de serviteurs, et cet homme était plus grand que tous les fils de l'Orient. Et ses fils allaient et faisaient un festin, chacun dans sa maison à son jour. Ils envoyaient appeler leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et il arrivait que, quand les jours de festin étaient terminés, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Ils se levaient de bonne heure le matin et offraient des holocaustes selon leur nombre à tous, car Job disait, « Peut-être, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. » Job faisait toujours ainsi. Jusqu'ici, la lecture de la parole. On va voir ce soir 7 passages qui réfèrent d'une façon ou d'une autre au Seigneur Jésus. Ici, dans ce passage, on a trouvé l'Holocauste. Et c'est déjà une indication que ce livre a été écrit avant les écrits de Moïse, parce qu'il ne parle pas de sacrifice pour le péché. Ce sacrifice avait le caractère d'un sacrifice pour le péché, parce que Job disait dans son cœur, peut-être mes fils ont péché, et c'est pour ça qu'il offrait ce sacrifice. Donc, c'est une des indications qu'on a pour suggérer que ce livre a été écrit avant les écrits de Moïse. Mais Job lui-même, il a vécu avant Abraham même, ou au moins peut-être une partie du temps ensemble avec Abraham. Job a eu l'âge, lorsqu'il est mort, au moins 200, 201. Il a vécu après ses expériences décrites dans ce livre-là encore 140 ans. Donc, et ce moment-là où l'histoire commence, Job avait déjà des fils, 7 fils probablement déjà mariés, peut-être même avec une famille. Donc, Job avait au moins l'âge d'un patriarche. Si on réalise que Abraham avait l'âge de 175 lorsqu'il est mort, Isaac 180. Donc, Job avait au moins cet âge-là lorsqu'il est mort. Donc, peut-être il a vécu le même temps qu'Abraham, ou même un peu avant, parce que il y a beaucoup de détails qu'on va pas discuter ce soir, mais qui montrent dans ce livre que le livre a ou au moins les expériences datent d'un temps très proche après le déluge. Donc, ça ne veut pas dire que le livre a été écrit aussi tout de suite après le déluge, mais on peut dire que certains détails nous parlent encore des événements qui ont eu lieu assez vite après le déluge. Ça veut dire 100, 200, 300 ans après le déluge. Maintenant, j'aimerais donner 7 points d'introduction, juste vite fait. Ce livre donc parle d'un homme pieux qui a été mis à l'épreuve pour faire voir s'il peut se maintenir devant Dieu en présence de la puissance du mal. Ça, c'est le premier point à considérer. Ça, c'est vraiment un des thèmes de ce livre. S'il peut en lui-même avoir la justice devant Dieu. Et puis, ce livre nous montre donc que ce n'est pas le cas. L'homme ne peut pas être juste en lui-même devant Dieu. Deuxièmement, ce livre nous parle des voies par lesquelles Dieu sonde les cœurs et les place dans la conscience de leur vrai état devant lui. On voit à la fin du livre que Job réalise son état, qu'il se voit dans la lumière de Dieu. Et ce sont des choses aussi que Dieu nous fait réaliser. Il nous met à l'épreuve pour nous discipliner, mais ce n'est pas le but comme tel. pour nous rendre conformes à son image, à l'image de son Fils bien-aimé. Ça, c'est l'éducation à l'école de Dieu. Ce test qu'il nous donne, comme à Job, c'est pour notre bien. Mais il montre clairement qu'en nous-mêmes, il n'y a aucune justice, en nous-mêmes, il n'y a rien. Et puis, on doit donc constater, deuxièmement, que dans la présence de Dieu, il n'y a aucune vérité en nous, mais on voit la grandeur de Dieu, comme à la fin du livre. Le troisième point que j'aimerais mentionner, c'est que le livre comme tel est dehors, en dehors de toute économie, donc de toute dispensation. Ce n'est pas lié à une dispensation spéciale, comme la dispensation de la loi, ou avant la loi, ou la dispensation où nous vivons, ou le millénium. C'est un livre qui s'applique à toutes les dispensations, quant à son enseignement général. On sait que la grande question, ou une des grandes questions, c'est le mal. Pourquoi Dieu permet le mal? Pourquoi Dieu permet les souffrances? Et même cette grande question n'est pas répondue, mais on voit comment Dieu amène Job dans ses expériences à une place où il est maintenant confortable dans la présence de Dieu, où il s'est jugé lui-même, et à la fin on voit comment il est devenu utile. On va revenir à ça bientôt. Le quatrième point, c'est que Dieu est à l'origine et il est la source de toutes ses voies. Donc, comme j'ai dit, le livre montre la grandeur de Dieu et que Dieu est en contrôle. Dieu est à l'origine de tout. On voit ça même dans chapitre 1 et 2. C'est Dieu qui prend l'initiative pour poser ces questions à Satan. Et ce sont les voies de Dieu, donc, avec Job. Cinquièmement, on voit que Satan n'est qu'un instrument, même ignorant, un instrument pour accomplir les desseins de la grâce de Dieu. Et ça donne donc la vraie place à Satan. On voit aussi que Job, il ne s'est pas occupé de Satan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'occupent de Satan et tout ce qu'il fait, mais on voit que Satan n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Et il faut le voir comme tel, pas plus que ça. Le sixième point, comme introduction, ce livre se divise en 7 parties. Donc, j'ai 7 points d'introduction et le sixième point, c'est aussi que le livre se divise en 7 parties. La première partie nous présente donc un homme parfait, comme Adam innocent avant la chute. La deuxième partie, bien vite déjà, dès le verset 13, nous montre un homme, cet homme tenté. On peut penser à Jacques 1, l'épître de Jacques, qui nous présente ces deux côtés, que Dieu, il ne tente pas, mais il nous éprouve. Il teste l'or, pour ainsi dire, et il permet que cet or soit mis à l'épreuve. Tandis que Satan, il envoie des tentations pour nous faire tomber. Ça, c'est la grande différence. Dieu ne veut pas nous faire tomber. Il veut purifier l'or, pour ainsi dire. Il veut que nous répondions à sa sainteté, à sa nature. Donc, un homme tenté. Et puis, après ça, dans le livre de Job, on voit la sagesse du monde. On voit comment le monde réagit à ça. Dans leur sagesse, les trois amis représentent vraiment le monde religieux dans ses aspects différents. L'expérience, la tradition, la raison de l'homme. Donc, des ressources dans l'homme, et qui leur raisonnement est comme tel. Job, dans une telle situation où tu te trouves, tu dois avoir commis un grand péché. Autrement, tu ne serais pas dans une telle situation. Ça, c'est le raisonnement des amis. Les trois amis sont différents, mais ils ont commun que cette présupposition est la même, que Job est là à cause d'un péché, peut-être caché, mais un grand péché qu'il a commis. Et même Job n'était pas entièrement libre de cette philosophie-là. Mais je ne peux pas parler trop plus de ça, mais on voit donc la sagesse du monde. Là, ça, c'est la troisième partie de ce livre. Après que la sagesse du monde, après que la sagesse de Job est épuisée, on voit qu'il y a un autre homme, Elihu. Elihu, son nom veut dire « Dieu est lui ». Il représente Dieu comme l'arbitre. On va voir ça tantôt aussi. Une des expressions en rapport avec le Seigneur Jésus, l'arbitre. Donc, la quatrième partie, c'est l'introduction de l'arbitre Job 32, qui présente les choses selon les pensées de Dieu. Et puis, après ça, Job, il termine son discours. Il ne parle plus. Après que donc, Élu a introduit les pensées de Dieu, il se tait. Et puis là, Dieu parle. Ça, c'est le cinquième point. La cinquième partie, c'est Dieu qui parle. Après cela, Job a appris sa leçon. Il s'est tu, mais là, il parle avec Dieu, il discute avec Dieu. Et de nouveau, il se tait, mais il communique maintenant avec Dieu. Et là, à la fin, lorsque Dieu a parlé, on voit, et puis ça, c'est le septième point, Job restauré. Il se voit dans la lumière de Dieu. Et vous voyez, ainsi, il y a beaucoup de leçons pour nous aussi, aujourd'hui. On voit que le dernier de Job est mieux que le premier. Un Job restauré vaut mieux qu'un Job innocent, pour ainsi dire. Et c'est pour nous, pour les croyants aussi. Un croyant restauré a appris certaines leçons qu'il ne connaissait pas avant le mal arrive. Le septième point d'introduction, c'est ce livre donne donc des applications. On peut l'appliquer à l'homme ou à l'humanité en général. Toute l'humanité passe à travers des épreuves, à travers des grandes souffrances, comme on le voit dans le livre de Job. On peut donc l'appliquer d'une façon très générale, aux souffrances générales dans le monde. On peut l'appliquer à l'histoire d'Israël. On voit que Job est presque un type d'Israël. Et on voit aussi des références au Seigneur Jésus. Il y a une très belle référence dans l'épître de Jacques, Jacques 5, qui dit que vous avez vu la fin du Seigneur. C'est dans Jacques 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. Vous avez, oui, parlé de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. Savoir que le Seigneur est plein de compassion et miséricordieux. Donc Job a vu ça et lorsqu'on lit ce livre, on le voit aussi. Mais peut-être les croyants auxquels Jacques a écrit ont eu des pareille expérience, probablement, parce que les croyants à Jérusalem étaient persécutés dès le début, ou très tôt déjà. Puis Jacques a écrit peut-être dans ce temps des premières persécutions, ou après les premières persécutions à Jérusalem. Donc, ils ont vu la fin du Seigneur, ça veut dire le but que le Seigneur Jésus a. Comment Dieu est introduit dans ce livre, comment le croyant Job et les croyants maintenant se voient dans la présence de Dieu et apprennent vraiment à connaître le cœur de Dieu. Ainsi, on peut l'appliquer donc aussi à nous-mêmes personnellement, aux croyants, comme Jacques, l'épître de Jacques confirme. On voit aussi donc des références au Seigneur Jésus, comme on va voir ce soir. Et même Job devient une image du Seigneur Jésus à la fin du livre. Donc maintenant, les sept points en rapport avec Christ qu'on trouve dans ce livre. Le premier point, j'ai mentionné déjà, c'est Christ comme l'Holocauste. L'Holocauste, littéralement, veut dire ce qui monte vers Dieu. On voit ici donc Job, un croyant, qui sacrifie, et comme j'ai dit, ce sacrifice avait le caractère d'un sacrifice pour le péché. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de connaissance plus précise des sacrifices, comme on voit dans le livre de Moïse. C'est très général, un holocauste. Maintenant, ce que j'aimerais suggérer ici, c'est ceci. Job, dans le chapitre 1, n'a pas encore compris vraiment la valeur de l'holocauste. Il fait ces choses, c'est une bonne routine pour ainsi dire, mais il y a quelque chose qui manque, comme on voit dans le chapitre 2 et 3, mais plus tard. Il y a des choses qui manquent dans la vie de Job. Maintenant, dans nos vies, Dieu veut que nous soyons en accord avec l'Holocauste. Donc, le point que j'aimerais suggérer, c'est ceci. Job, il offrait des holocaustes, mais il manquait à être en accord avec l'Holocauste lui-même. Vous voyez, nous connaissons le Seigneur Jésus comme le parfait Holocauste. Nous voyons comment Dieu nous a vêtus de la peau de l'Holocauste. Ça veut dire Dieu nous a acceptés dans le Seigneur Jésus, dans les bien-aimés. Éphésiens 1, verset 3. L'Holocauste devient très précieux pour nous. Mais est-ce que notre vie est vraiment en harmonie avec l'Holocauste? Éphésiens 5 nous parle de cela. Je vais juste lire Éphésiens 5, le début. Vous voyez, dans Éphésiens 1, c'est très clair que Dieu nous a acceptés, même rendus agréables dans les bien-aimés. Éphésiens 1, verset 6. Là, on voit l'Holocauste et la position que Dieu nous a donnée. Il nous a enveloppés de la peau de l'Holocauste. Il nous a acceptés dans le Seigneur Jésus et rendus agréables devant lui. C'est la position de chaque croyant, vous voyez. Mais maintenant, notre marche pratique, et c'est ça Éphésiens 5, qui nous parle de notre marche pratique est en accord avec l'Holocauste. Est-ce que c'est vraiment l'Holocauste? Éphésiens 5, versets 1 et 2. Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants et marchez dans l'amour. Comme aussi le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, comme offrande et sacrifice à Dieu, un parfum de bonne odeur. Voilà l'Holocauste. Le parfum de bonne odeur nous parle de l'Holocauste. Lévitique 1 nous confirme ceci, que tous les holocaustes ont produit ce parfum de bonne odeur pour Dieu. Une odeur de repos pour Dieu. Dieu a pu se reposer dans cette œuvre. On le voit aussi dans Genèse 8, pour la première fois, peut-être vous le savez, la première fois qu'on trouve l'Holocauste dans la parole de Dieu, c'est Genèse 8, verset 22, où Noé a pris les oiseaux purs qu'il avait dans l'arche, les animaux purs, et il les a sacrifiés comme holocauste. Il a construit un autel, c'est quelque chose de spécial, qui est mentionné dans Genèse 8, verset 22 et suivant. Et puis, sur cet autel, il a offert cet holocauste. Donc, l'holocauste produit quelque chose d'agréable pour Dieu. Une odeur agréable, une odeur de repos pour Dieu. Mais maintenant, comme j'ai dit, Dieu nous a placés dans une position qui est le résultat de cette œuvre accomplie du Seigneur Jésus. Donc, notre position dans le Seigneur Jésus est parfaite. Mais maintenant, c'est une question de notre marche. Et Éphésiens 5, 1 et 2 nous parlent de cette marche, que nous marchons maintenant comme le Seigneur Jésus a marché, comme lui, il s'est donné un sacrifice. Donc, en autre mot, la grande question ce soir, est-ce que moi, je suis en accord avec l'Holocauste, avec les pensées de Dieu en rapport avec l'Holocauste? Il nous a acceptés dans cet Holocauste parfait du Seigneur Jésus. Est-ce que ma vie est en accord avec ça? Dans le cas de Job, sa vie n'était pas encore en accord avec l'Holocauste. Il y avait des choses qui manquaient. Si vous voulez étudier en détail l'Holocauste, on mentionne aussi Genèse 22, Lévitique 1, Exode 29 et d'autres passages qui donnent beaucoup de choses à réfléchir. Mais pour résumer ce point-là ici, on voit Christ comme Holocauste dans un sens objectif. On le voit ce qu'il était pour Dieu, les résultats de son œuvre pour Dieu, mais Dieu veut aussi avoir l'aspect subjectif. Donc, le résultat pratique de tout cela dans ma vie. Et on voit donc, malgré le fait que Job a sacrifié des holocaustes, il y avait encore des manques dans sa vie qui ne répondaient pas entièrement à la pensée de l'Holocauste. Et Dieu se met maintenant en route, pour ainsi dire, pour changer cela, pour mettre Job en accord avec la pensée que Dieu avait pour l'Holocauste. Et à la fin du livre, on voit que Job répond aux pensées de Dieu. Donc, par expérience, il arrive à ce point-là qu'il répond aux pensées de Dieu. Mais ça prend tout le livre. Et pour nous aussi, ça prend beaucoup de temps. Et puis, à travers ces expériences, on va apprendre plus de Christ. Donc, pour arriver à ce point très élevé de l'Holocauste, ça prend bien des expériences. Et brièvement, très brièvement, on va voir quelques détails de ce voyage, pour ainsi dire, à travers le livre de Job. Job 9. On a la deuxième référence à Christ, bien vague, mais dans Job 9, verset 33, nous lisons quelque chose que Job a constaté. Verset 33, « Il n'y a pas entre nous un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. » Donc, il parle ici de Dieu, verset 32, « Car Dieu n'est pas homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Il n'y a pas entre nous un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. » Ça veut dire sur Dieu d'un côté, sur moi de notre côté. Dans ce livre-là, on voit que Job a vraiment un conflit avec Dieu. Job, il n'avait pas péché. Quand même, Dieu avait permis ses épreuves. Donc, la suggestion est là que Dieu était injuste. Mais, je le dis avec beaucoup d'hésitation, mais on voit, lorsqu'on étudie ce livre-là, que la conclusion de Job était: moi, je suis juste. Plus tard, on voit dans le livre là que Job confirme ça. Moi, je suis juste. Moi, j'ai pas péché. Donc, Dieu doit être injuste. Il le dit pas comme moi, je le dis maintenant, mais c'était quand même une suggestion qu'on peut voir là, à travers cette discussion. Il ne le dit pas ouvertement. Et c'est pour ça que Dieu permet, à la fin du livre, que Job se voit dans la lumière de Dieu. Et là, il voit que Dieu est absolument juste. Et Dieu est amour. Dieu est amour. et Dieu est lumière. Les deux vont toujours ensemble. Mais Job a réalisé qu'il avait besoin d'un arbitre ou, selon la note, d'un médiateur. Donc, ça, c'est le premier besoin que l'homme a, vraiment. Le premier besoin. Ça ne commence pas par l'Holocauste, comme j'ai vu, comme j'ai dit. C'est plus ou moins le but. Mais le point de départ, c'est ce besoin que tout homme a. Dans la présence de Dieu, l'homme a besoin de médiateur. Sans médiateur, l'homme n'est pas capable de se tenir devant Dieu. L'homme est absolument incapable d'être dans la présence de Dieu. Et malgré la propre justice de Job, il a réalisé plus ou moins ce fait quand même, et qu'il avait besoin de médiateur. Mais malheureusement, Job a dû dire, il n'y a pas entre nous un médiateur. Nous savons que le médiateur est venu. Un médiateur veut dire donc quelqu'un qui prend la cause des deux parties. Le médiateur doit être impartial. Voilà, le Seigneur Jésus était parfaitement impartial. Vous avez à l'ouvrage quelquefois des disputes à régler, sans doute. Puis pour être un vrai médiateur, c'est très difficile. Pour représenter les deux causes, les deux parties qui sont opposées l'un de l'autre, c'est très difficile. Mais le Seigneur Jésus était impartial. Il a pris la cause de Dieu sur ses épaules. Il a pris la cause de l'homme sur ses épaules. Il a réglé les deux causes. Sans diminuer les intérêts de Dieu, il a maintenu les intérêts de Dieu parfaitement. Et il a maintenu les intérêts de l'homme parfaitement. Pour cela, il fallait que Christ soit Dieu lui-même. Comment avoir un médiateur entre Dieu et l'homme qui est capable de maintenir la cause de Dieu? Il faut qu'il soit Dieu. Mais comment maintenir les intérêts de l'homme s'il n'était pas homme? Et on voit donc que Christ était Dieu et homme dans la même personne. Parfaitement Dieu, parfaitement homme. Il n'était pas demi-Dieu, demi-homme comme les Mormons enseignent par exemple. Parce que dans ce cas-là, il n'est ni Dieu ni homme. Il est parfaitement Dieu, parfaitement homme, dans une même personne. Et souvent, on ne peut pas le distinguer. La parole de Dieu souligne, lorsque l'Esprit nous présente le Seigneur Jésus comme homme, il le mentionne souvent d'un nom divin, comme le Fils. Le Fils est son nom divin. Ou lorsqu'il le présente comme personne divine, souvent, il le mentionne avec un nom humain, comme le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Voilà, c'est une personne divine qui est dans le ciel. Le même moment où il parlait avec Nicodème, il était dans le ciel comme fils de Dieu, mais il était le fils de l'homme sur la terre en même temps. Et c'est cette personne bénie qui a réglé cette question, qui a répondu à cette question. Et ainsi on peut dire, oui, le médiateur, il est venu. Il a mis sa main sur les deux. Il a mis sa main sur Dieu, ça veut dire, il a pris la cause de Dieu sur ses épaules. Il a pris la cause de l'homme sur ses épaules. Et ainsi, il a réglé la grande question. Comment un homme peut être juste devant Dieu? Mais il fallait plus que ça. Le Seigneur Jésus est devenu donc le médiateur. Mais pour régler toute question, il fallait qu'il soit plus. Et on va voir ça tantôt. Je voulais juste référer à Job 16, verset 21, où on a encore un détail concernant le médiateur. Donc on pourrait lire 1 Timothée 2, verset 5. Je vais juste le lire, parce que c'est un très beau passage qui nous parle donc du Seigneur Jésus comme médiateur. Il y a aussi des passages dans l'Épître aux Hébreux qui nous parlent du Seigneur Jésus comme le médiateur. Mais 1 Timothée 2, verset 4 ou 3 à la fin. « Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un. L'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Donc on voit ici Christ Jésus, qui est l'homme Christ Jésus. Donc ici, l'emphase est mise sur son humanité. Mais il fallait qu'il soit aussi Dieu pour répondre aux intérêts de Dieu. Un médiateur. Maintenant, dans Job 16, verset 21, nous avons donc encore un détail sur le médiateur. Que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu et pour un fils d'homme vis-à-vis de son ami? Donc on voit ici le désir. Dans chapitre 9, on voyait que Job a constaté qu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de médiateur. Ici, il exprime le désir. Ça, c'est aussi un point important. Chaque homme a besoin d'un médiateur, comme j'ai dit au début. Mais il faut qu'il le réalise. Ici, on voit que Job le réalise. Et c'est comme un malade. Lorsqu'il réalise sa maladie, c'est déjà 50% de la guérison, comme on dit souvent. Donc, la constatation du besoin aide déjà pour trouver la solution. Ici, donc, il exprime son désir, son besoin. C'est bon. OK, maintenant, le troisième point, c'est chapitre 19, verset 25. Et puis là, on voit que Job a fait un pas avant, un pas grandiose. Il dit ici dans Job 19, verset 25, « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant. » Est-ce que tout le monde peut le dire ici, ce soir? « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier, il sera debout sur la terre. » Et moi, je sais. C'est donc un progrès spécial comparé avec le verset qu'on a lu tantôt. Maintenant, il sait quelque chose. Il sait que mon Rédempteur est vivant. Il ne dit pas ici que le Rédempteur est vivant, mais il sait que ce Rédempteur, le Rédempteur, est son Rédempteur. Donc, il y a ici une relation personnelle entre Job et le Rédempteur. Et ça, c'est aussi très important pour nous. Il y a bien des croyants qui savent certaines choses, ils connaissent la doctrine chrétienne presque par cœur, mais ils ne peuvent pas dire « mon Rédempteur » parce qu'ils n'ont pas de lien avec Dieu. Je dirais ici quelques mots sur le lien avec le Créateur. Le Rédempteur est d'abord le Créateur. Et je dirais ceci, on voit beaucoup de détails dans le livre de Job qui parlent de Dieu comme Créateur, mais aussi comme juge, qui a envoyé le déluge et qui va envoyer le jugement plus tard. Donc, Dieu, le Dieu créateur, il est vu ici comme rédempteur, mais aussi comme juge. Et nous devons faire face à ça. Le créateur, ça veut dire que chaque être humain a été créé comme responsable, doit donner une réponse. Chaque enfant même doit donner une réponse à Dieu, parce que Dieu est ton créateur. Il est dit dans Ecclésiaste, « Souviens-toi de ton créateur dans les jours de ta jeunesse. » Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'on soit vieux, parce que là, c'est trop tard pour bien des gens. Il faut se souvenir du créateur dans sa jeunesse. Mais aussi, dans ce sens-là, c'est important. Si les gens ne connaissent pas Dieu comme créateur, ils ne vont pas le connaître comme rédempteur non plus. Une chose qui me frappe toujours, c'est voir dans Apocalypse 4 et 5, cet ordre. Dans Apocalypse 4, c'est le Créateur que nous, les croyants, vont honorer pour toute l'éternité. Dans Apocalypse 5, où on a l'agneau dans le trône et sur le trône, on voit le Rédempteur. Et nous allons nous prosterner devant le Rédempteur aussi. Mais il faut connaître Dieu comme le Créateur pour pouvoir l'apprécier comme le Rédempteur. Et si on ne l'accepte pas comme tel, on va faire face à lui comme le juge. Il sera le juge, comme Acte 17 le montre, et bien d'autres passages. Jean 5 nous parle du Seigneur Jésus, qu'il a reçu le jugement de la part de Dieu. Il est le Fils de l'homme, et c'est pour ça que Dieu lui a donné le jugement. Il sera le juge. Donc, c'est pas seulement Dieu qui sera le juge, Dieu va juger toute la terre par un homme. Donc, le monde, dans ce cas-là, ne peut pas dire « Ok, Dieu, mais tu es trop élevé pour moi. » Tu peux pas être mon juge. Là, Dieu va dire, voilà, je donne le Seigneur Jésus comme juge. Il est un homme et c'est lui qui va juger toute la terre. Donc, quel privilège pour nous de le connaître avec Job comme mon Rédempteur. Maintenant, quelques mots sur le mot Rédempteur. Ça présuppose l'esclavage. Ça présuppose des problèmes. Il y a trois mots différents en rapport avec la rédemption dans l'hébreu et deux dans le grec. Et le mot utilisé ici, c'est « goel ». « Goel », c'est comme on a dit en anglais « kinsman redeemer ». Le « goel », c'est donc le rédempteur, mais il est rédempteur parce qu'il est lié par le sang, donc par des relations familiales. Et si le Seigneur Jésus, il a adopté, il a participé, comme Hébreux 2 le dit, dans la chair, dans le sang et la chair, Hébreux 2, verset 14. Ainsi, le Seigneur Jésus est devenu notre proche, notre kinsman, celui qui nous est proche, par le sang et la chair. Ainsi, il est proche, devenu proche, comme la parole devenue chair, pour être notre rédempteur. Et comme j'ai dit, la rédemption présuppose donc l'esclavage. On le voit dans l'histoire d'Israël, on le voit aussi dans l'histoire de chaque homme, chaque homme, chaque femme, chaque être humain. On est dans l'esclavage du péché, même de la puissance de la mort, la puissance de ce monde. Et le Seigneur Jésus est devenu notre Rédempteur. Et vous voyez, il est dit ici, il est vivant. Dans Apocalypse 1, nous voyons le Seigneur Jésus comme le juge futur. On le voit aussi comme l'homme qui a vécu comme le parfait témoin de Dieu. Mais on le voit aussi comme celui qui vit maintenant, qu'il a été ressuscité. Et puis, j'aimerais suggérer que la vérité de la rédemption est liée intimement à la vérité de la résurrection. Sans la résurrection du Seigneur Jésus, il n'y avait pas de rédemption. Romains 4, par exemple, nous montre cela, 1 Corinthiens 15 aussi, c'est absolument nécessaire. Donc, on voit ici que la rédemption, c'est pas seulement la parole devenue chair, le Seigneur Jésus devenu homme, mais un homme ressuscité. Dans sa mort, il a ôté le péché. Il a pris la place dans le jugement de Dieu. Il a pris notre place. Dieu l'a jugé, condamné le péché en lui. Et il l'a même ôté de ce monde. Mais il l'a introduit dans le monde de la résurrection. Et puis, même ce verset-là, c'est bien vague, il est vrai, mais il y a une référence à la résurrection, ou plusieurs références. D'abord, cette pensée-là. Il est vivant. Il vit pour toujours maintenant. Il a réglé la question du péché. Il est mort pour cela, mais il vit maintenant. Et il sera debout. Ça parle aussi de la résurrection, mais aussi de son règne futur. Ça parle de son autorité. Il a tout droit maintenant. Il est debout. Et il sera debout sur la terre. Ça veut dire qu'il va régner sur la terre comme homme ressuscité. Et de ma chair, je verrai Dieu. Donc Job connaissait aussi pour lui-même la vérité de la résurrection. En rapport avec la rédemption, encore une pensée. Ça présuppose aussi que le Seigneur Jésus a tous les droits. Comme rédempteur, il nous a achetés. On va voir un peu plus loin la vérité du rançon, le prix qu'il a payé, et ainsi il a tout droit sur nous. Il est notre rédempteur, mais nous pouvons maintenant le servir. Donc, en rapport avec la rédemption, nous étions dans une situation irrémédiable où il n'y avait aucune sortie. Comme Israël était devant la mer Rouge, j'ai montré une fois des diapositives là-dessus, le peuple était devant la mer Rouge, ici une montagne, là une montagne, en arrière le pharaon avec toute son armée. Ils étaient dans une situation irrémédiable. Seulement la mer devant eux, mais ce serait la mort. Mais le Seigneur Jésus, lui, il est mort pour nous, pour que nous puissions traverser la mer Rouge à sec. Lui était mort, littéralement, mais nous entrons dans la mort, mais lui a porté tout le jugement pour nous. Ainsi, il nous a délivrés de cet esclavage terrible du pharaon, qui est l'image de la puissance du péché, de la puissance de Satan. Donc, une situation avec aucun espoir, c'est là où le Seigneur Jésus est intervenu pour devenir notre Rédempteur. Quel titre précieux. Mon Rédempteur. Il est vivant. Maintenant, le quatrième point, on pourrait se demander, mais comment Dieu a trouvé ce moyen-là? On voit le Seigneur Jésus dans le livre de Job aussi comme la sagesse de Dieu. Job 28. Donc, on a vu d'abord le besoin du médiateur, mais le médiateur, pour être efficace, il fallait qu'il soit aussi le Rédempteur. Mais pour être le Rédempteur, il était aussi la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu a trouvé une solution, justement pour l'envoyer comme médiateur, pour rédempteur. Mais la sagesse de Dieu a trouvé donc ce moyen, je le dis avec révérence, pour le Seigneur Jésus. Et j'aimerais suggérer que Job 28 nous présente le Seigneur Jésus comme la sagesse de Dieu. On est familier, plus ou moins, avec cette pensée-là, que le Seigneur Jésus est la sagesse de Dieu. Proverbe 8, on voit déjà la sagesse de Dieu personnifiée, mais surtout dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 1 et 2, nous voyons Christ comme la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. La sagesse de Dieu veut dire les ressources que Dieu a trouvées. C'est une question de ressources. Là où il n'y a pas de remède, comme nous avons vu, Dieu a trouvé des ressources. Et c'est là la sagesse. Je lis maintenant Job 28, verset 12. Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Et où est le lieu de l'intelligence? Aucun mortel n'en connaît le prix et elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Donc, de nouveau, Job constate ici quelque chose. Dans une question d'abord et puis une constatation. La question, la sagesse, où la trouvera-t-on? Pour avoir un médiateur, pour avoir un rédempteur, il faut la sagesse pour régler cette question. Mais il constate qu'aucun mortel n'en connaît le prix. Donc ça veut dire que sagesse doit venir de l'autre ordre. Et ainsi Dieu a introduit le Seigneur Jésus, le second homme, qui représente un nouvel ordre de choses. Elle ne se trouve pas sur la terre des vivants. Donc Job, c'est de nouveau des termes vagues, mais il réalise quand même que selon l'ordre des choses qu'il connaissait, il n'y avait pas de solution. Il fallait que Dieu introduise quelque chose de meilleur. Et c'est pour ça que Dieu introduit la sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui a trouvé le remède. Dans Colossiens 2, nous voyons que en Christ, tous les trésors de la sagesse sont cachés en lui. Il est la sagesse de Dieu, comme j'ai dit, la puissance de Dieu, mais c'est très précieux de lire ces versets sur la sagesse. Et maintenant, une question. Si je dis Christ est la sagesse de Dieu, on peut constater ça facilement, mais est-ce que je connais cette sagesse personnellement? Est-ce que moi, je réponds pratiquement à cette sagesse? C'est ça la grande question. Comme j'ai suggéré aussi en rapport avec l'Holocauste, nous vivons dans le temps de la fin. Et puis, dans Jacques 3, verset 17, je pense, il est dit, il répond à cette question-là. Qui est sage? Qui est sage à la fin de la dispensation? Puis là, il parle de la sagesse d'en haut. Dans 7 points, il parle de cette sagesse d'en haut qui est venue dans ce monde. Et voilà, dans le Seigneur Jésus, nous avons toutes les ressources. Là, nous pouvons apprendre. Là, nous voyons donc comment Dieu a trouvé une solution pour régler la question du péché, pour régler la question de la rédemption, pour régler donc tous les besoins de l'homme, et en même temps pour maintenir ses propres droits. Parce que Dieu ne peut pas diminuer sa position, sa sainteté, sa justice, ne peut pas diminuer ça. Donc, il a trouvé le médiateur. Et tout cela s'est donc produit, a été produit par la sagesse de Dieu. Christ connaît la sagesse de Dieu, mais maintenant, est-ce que moi je réponds pratiquement? Est-ce que moi je suis un sage maintenant? Appris comme Marie, elle était assise au pied du Seigneur, elle est devenue sage au pied du Seigneur Jésus. On a besoin de cette sagesse. On n'a pas besoin de la sagesse du monde dans ce sens-là. On a besoin de cette sagesse divine. Vraiment, on a besoin de là. Et puis, Job donne quand même une clé pour nous, vous voyez. C'est beau de voir à la fin du chapitre 28, verset 28, il dit à l'homme, et c'est pas trop difficile, même pour les enfants, pour le comprendre, vous voyez, voici la crainte du Seigneur. C'est là la sagesse. Donc Dieu, mais même Job, il trouve une réponse à sa propre question. Quant à sa responsabilité pratique, au moins, il trouve la réponse. Il dit, la crainte du Seigneur, c'est là la sagesse. Et se retirer du mal est l'intelligence. Job, en autre mot, dit, ce que moi je peux faire, c'est au moins me retirer du mal. Et on voit dans Job 1 que c'était le témoignage que Dieu donnait à de Job, qu'il était retiré du mal. C'est la vraie sagesse. Ça, c'est notre affaire. On pourrait dire, mais moi, je connais pas les ressources de Dieu, la sagesse secrète de Dieu, ça me dépasse, un chrétien 2. Mais une chose que nous pouvons faire et qui montre une sagesse pratique, c'est se retirer du mal, être séparé du mal par la crainte du Seigneur. Respect pour le Seigneur, respect pour ses droits. Donc, ça, c'est une sagesse pratique. Et comme j'ai dit, dans ce chemin-là, on peut apprendre beaucoup du Seigneur Jésus, qui était retiré du mal tout le temps, mais quand même accessible pour les pécheurs, pour tout le monde, qui a révélé la sagesse de Dieu. Voilà, c'est déjà un sujet en soi qu'on pourrait étudier pendant toute la soirée. Mais ce sont juste quelques points en rapport avec le Seigneur Jésus. Maintenant, le cinquième point, dans chapitre 33. J'ai dit donc au début, dans le chapitre 32, après que les paroles de Job sont finies, Dieu introduit maintenant Élihu. Élihu, le quatrième ami de Job, représente Dieu vraiment. Et il introduit la présence de Dieu. Et aussi dans nos vies, la présence de Dieu règle toutes choses. Lorsqu'on oublie la présence de Dieu, on ouvre la porte pour toutes sortes de mal. Par contre, lorsqu'on réalise la présence de Dieu, on ferme la porte pour le mal. Et Dieu se sert donc de Élihu. Son nom veut dire Dieu est lui. Donc il vraiment représente Dieu pour régler les problèmes. Ok? Le cinquième point, donc, et puis c'est le premier point en rapport avec cet Élihu, Job 33, verset 23. « S'il y a pour lui un messager, un interprète, un entre mille, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture, il lui fera grâce, il dira, délivre-le pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation ou un rançon. » Voilà, on a ici deux points. Le premier, c'est donc Christ comme le messager, interprète, un entre mille. Ce sont trois choses, mais c'est mon cinquième point. Et puis, le sixième point, c'est Christ comme le rançon, comme la propitiation. OK? Donc, on est sur ce chemin pour arriver à l'Holocauste. Hein? Faut se rappeler. Donc, on a constaté le besoin d'un médiateur, d'un rédempteur, de la sagesse de Dieu. Mais même si Dieu présente toute la sagesse, on n'a pas part à ça. Il faut avoir part de cette sagesse. Et comment avoir part de cette sagesse? C'est par le messager. Le Seigneur Jésus, donc, est devenu le messager. Il était, le mot messager, on peut traduire par ange. Le Seigneur Jésus, il est Dieu lui-même. Et dans la parole de Dieu, on le voit comme l'ange de l'Éternel. Il est devenu un messager qui représente Dieu. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus est le vrai messager qui peut représenter Dieu parce qu'il est Dieu. Et puis, il est l'interprète. Il peut interpréter. On voit dans le Nouveau Testament, Luc 24, comment le Seigneur Jésus a interprété la parole de Dieu. Les écrits de Moïse, les prophètes, les psaumes ou les écrits en général, il les a interprétés. Et nous avons besoin de cela. Dans Éphésiens 1, lorsque Paul a parlé de toutes nos bénédictions, là dans Éphésiens 1, et notre position merveilleuse, il prie afin que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs. On a besoin d'un interprète. Il faut que ce soit expliqué d'une façon que nous puissions le saisir et que ce soit formé en nous, pour ainsi dire. Ces choses se forment en nous. Comme dans les disciples d'Emmaüs, un entre mille, le Seigneur Jésus, c'est lui. Lui est vraiment un entre mille qui peut le faire. Autrement, le seul qui puisse le faire. Pour montrer à l'homme ce qui pour lui est la droiture. Donc, la droiture en se jugeant lui-même, on a vu la nécessité de cela. Donc Dieu, le Seigneur Jésus représente Dieu, il montre les pensées de Dieu, il montre aussi la nécessité qu'on se repente, qu'on se juge soi-même, comme Job a dû l'apprendre. Donc un messager parfait. Et juste pour expliquer ce point-là, dans Éphésiens 2, nous lisons que le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre par laquelle il a réalisé la paix. Le Seigneur Jésus a introduit la paix dans ce monde, parce qu'il est la paix de la part de Dieu. Et puis, il est notre paix, comme il le dit. Donc, il est devenu la paix, il est notre paix, et il annonce la paix maintenant. Il est le vrai messager. Ainsi, le Seigneur Jésus est vu dans ce livre comme celui qui présente les pensées de Dieu. Comme vous et moi, nous avons besoin de lui comme interprète. Mais, on voit maintenant aussi la question du rançon. On a lu dans 1 Timothée 2, tantôt, il est le médiateur, un médiateur, mais là, il parle aussi du rançon. Le Seigneur Jésus s'est donné en rançon pour vous et moi. C'est le prix qu'il a payé. Donc, pas seulement l'offrande pour plaire à Dieu, mais le prix qu'il a payé. C'est pour ça que j'ai dit, le Rédempteur, il a un droit maintenant, parce qu'il a payé ce prix. Maintenant, le dernier point, pour terminer, nous voyons le Seigneur Jésus, parce que on n'a pas le temps maintenant de parler de la propitiation, donc c'est quelque chose par laquelle Dieu est devenu propice maintenant envers la race humaine. Comment Dieu peut pardonner le péché et tout cela, mais malheureusement on n'a pas le temps de le développer. À la fin, on trouve maintenant Job comme le vrai serviteur intercesseur. Et là, comme j'ai dit, il devient lui-même une image du Seigneur Jésus. Job a pris sa leçon, on peut le voir, il s'est tu dans la présence de Dieu, il se voit maintenant dans la lumière de Dieu, Job 42, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. » Donc là, on voit vraiment, il se voit dans la lumière de Dieu. Verset 6, « C'est pourquoi j'ai horreur de moi, je me repens dans la poussière et dans la cendre. » Donc ça, c'est la place à prendre devant Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut que nous soyons dans la poussière et dans la cendre, comme Abraham déjà dans Genèse 18. Mais vous voyez, Job le dit ici, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. » Donc, il est tellement impressionné par la grandeur de Dieu qu'il se voit maintenant comme il est vraiment devant Dieu. C'est pour ça qu'il se repent dans la poussière et dans la cendre. C'est la seule place que nous, vous et moi, devons prendre dans la présence de Dieu. Une place de repentance, d'humiliation, comme Job l'a appris. Et d'être impressionné par la grandeur de Dieu. Verset 2, je sais que tu peux tout. Donc, impressionné par la toute-puissance de Dieu, par sa puissance, par sa grandeur, et qu'aucun dessein n'est trop difficile pour toi. On a parlé de la sagesse de Dieu, voilà. Aucun dessein n'est trop difficile pour lui. Job a appris sa leçon. Puis, verset 4, écoute, je te prie, et je parlerai, je t'interrogerai, et toi, instruis-moi. Ça, c'est la bonne attitude. Maintenant, il est dans une attitude pour être instruit par Dieu. Avant ça, il n'était pas vraiment docile. Il n'était pas vraiment comme un élève qui peut adopter cette instruction. Parce que il s'était endurci envers Dieu, plus ou moins. Maintenant, tout cela a été jugé. Et puis Job devient maintenant un instrument utile. Vous et moi, Dieu veut que vous et moi, nous soyons des instruments utiles pour le Maître. C'est remarquable, on voit au moins 4 fois, je pense, ici, que Dieu parle de Job, mon serviteur. Verset 7, à la fin, comme mon serviteur Job. Verset 8, mon serviteur Job priera pour vous. Donc, on voit ici Job comme le serviteur de Dieu qui est maintenant l'intercesseur. Et nous savons que le Seigneur Jésus est le vrai intercesseur. Donc, on voit Job ici comme une image du Seigneur Jésus. Il peut prier pour ses amis. Et puis après ça, on voit que Dieu l'a restauré. Verset 10, l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Donc on voit que Dieu répond à la prière de Job. Ça nous montre que Dieu est satisfait. Et ainsi Dieu, dans son gouvernement, il bénit Job. Verset 12 aussi. Maintenant pour nous. Dieu veut nous avoir dans la lumière de l'Holocauste, comme on a vu au début. C'est là où Dieu peut nous bénir. C'est là où nous pouvons être utiles pour prier pour d'autres. Si nous ne sommes pas pratiquement en accord avec l'Holocauste, Dieu n'a pas de plaisir en nous. Vous voyez, c'est pas seulement une position que Dieu nous donne. Comme j'ai dit au début, tous les croyants sont rendus agréables dans le bien-aimé devant Dieu. C'est leur position. Mais Dieu veut pas seulement cette position, il veut que nous soyons pratiquement en accord avec cette position. Et c'est pour ça qu'on a vu ce long chemin par lequel Job est arrivé à ce point-là, qu'il soit donc profitable, qu'il peut être dans la présence de Dieu en rapport avec l'Holocauste. Et ainsi, j'aimerais suggérer, il y a un lien entre chapitre 1 et 42. Ici, Job répond pratiquement à la pensée de Dieu concernant l'Holocauste. Comme on a vu dans Éphésiens 5, ça répond à la pensée de Dieu. Et ainsi, Dieu peut se servir de Job pour être une bénédiction pour les autres, pour représenter Christ vraiment. Et ainsi, Dieu veut que vous et moi, nous représentions Christ pratiquement. Mais pour cela, donc, il faut le connaître comme médiateur, rédempteur, comme la sagesse de Dieu, comme l'interprète, comme nous avons vu dans le chapitre 6, le messager, comme le rançon, tout cela. Nous avons besoin de cela, mais on a besoin aussi de lui comme intercesseur. Parce que nous pouvons être des intercesseurs, mais qui est un intercesseur comme lui? Lui, il intercède continuellement pour les croyants. Sans son intercession, pratiquement parlant, on serait perdu dans ce monde. Pas dans notre position devant Dieu, mais pratiquement. Donc on a besoin du serviteur. Le vrai serviteur, c'est le Seigneur Jésus qui prie pour nous. Mais Dieu veut aussi que nous soyons de vrais serviteurs, comme Job ici. De quel Dieu peut dire mon serviteur? Quelle pensée ce serait si Dieu pouvait dire, Michel, que mon serviteur Georges ou Jacques, n'importe qui, Jean ou les sœurs, tu es mon serviteur. C'est ça que Dieu veut, que nous soyons ses serviteurs avec lesquels il peut s'identifier, qui peut utiliser pour ses propres intérêts. Donc le Seigneur nous aide pour être dans le bien de ces choses, pour être dans la lumière de l'Holocauste, pour vivre comme un Holocauste pour Dieu. Et ainsi, il y aura une odeur agréable pour Dieu, qui sort même de nos vies. Mais c'est tout Christ, c'est clair. Il n'y a rien en nous comme nous avons vu. C'est Christ qui est reproduit en vous et moi. Et ainsi, Dieu sera prendra plaisir de nous voir, de nous avoir ici dans ce monde. Peut-être il y a encore des questions, des choses qui m'ont échappé, qui ont besoin d'être clarifiées, juste 1 ou 2 minutes, si c'est nécessaire. Ou pour les enfants, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Donc le Goël, c'est un des noms pour Rédempteur. Et ce qui nous frappe, c'est de voir que ces trois noms différents qui sont utilisés font toujours référence à une situation pénible. Je donne une illustration pour terminer. Si tu prends un verre et tu le mets dans un nid, par exemple, et puis après ça, tu mets le feu au nid, hein? On va mettre le nid en feu. Puis là, tu vois là le petit verre au milieu, il sort peut-être de ce côté-là, il va essayer l'autre côté, mais tout le nid est en feu. Donc, il se garde juste au milieu du feu. Puis là, il est perdu. Il n'a pas de solution pour lui. Il peut pas sauter, il peut pas voler. Puis là, la seule solution, c'est que quelqu'un vient pour le chercher d'en haut. Et c'est ça le rédempteur. Et le mot rédempteur veut dire donc quelqu'un qui vient nous faire sortir d'une situation impossible. C'est ça le rédempteur. Donc le Seigneur est grand parce qu'il est venu. Il n'a pas seulement dit sors ou monte. Il est venu jusque dans le bourbier pour nous chercher, pour nous faire sortir de là. Le Rédempteur. Mon Rédempteur.